Quelle grâce tu nous fais, Seigneur, que dimanche après dimanche tu réunisses ton peuple, tes enfants, Seigneur. Quand je dis le peuple, c'est pas quelque chose de global, c'est des individualités que tu connais chacun par son nom. Tu connais chaque problème, tu connais chaque maladie, tu connais chaque doute. Et tu veux être là, Seigneur, au milieu de ces doutes, de ces problèmes. Du bonheur aussi, Seigneur, que tu donnes en abondance, des grâces que tu accordes à chacun, Seigneur, même si nous avons du mal quelquefois à le discerner. Et puis tu nous donnes quelque chose de magnifique, Seigneur, qui est à notre disposition quand nous le voulons, c'est-à-dire c'est ta parole, Seigneur. Et c'est par ta parole que tu parles au cœur de chacun, mais pas au cœur superficiel, au cœur profond. Et c'est par ton Saint-Esprit, Seigneur, que les paroles de vie sont transformées pour nous faire vivre, pour faire vivre chacun de tes enfants. Alors nous te bénissons vraiment pour cela, Seigneur. Amen.
Amen.
Aujourd'hui, je vais vous lire dans l'Évangile de Marc, au chapitre 16, un texte que vous connaissez forcément, de toute façon, vous connaissez presque tout, hein, puisque ça fait peut-être pour certains 50 ans, 60 ans que vous êtes dans l'Église, donc forcément, vous avez lu la Bible. Donc c'est la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ, Marc, chapitre 16, à partir du premier verset. Lorsque le sabbat fut passé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent à la tombe très tôt au lever du soleil. Le premier jour de la semaine, dans la Bible, c'est le dimanche. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre de l'entrée du tombeau ?» Elles levèrent les yeux et s'aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le tombeau, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. » Voici l'endroit où on l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent tremblantes et hors d'elles-mêmes, mais elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Le fait de connaître et de relire les textes de la résurrection de Jésus depuis tant et tant d'années, pour certains, pas pour tous, mais pour certains, cela risque de nous empêcher de comprendre l'état d'esprit des disciples et de ceux qui avaient suivi Jésus. Lorsqu'ils ont vu le corps de Jésus déposé dans une tombe, comme n'importe quel autre homme. Pour eux, c'était comme si tout s'écroulait. Souvenez-vous de ce que les disciples d'Emmaüs ont dit à leurs compagnons de route qu'ils n'avaient pas reconnus. J'espère que vous avez en mémoire ce texte. Voilà ce qu'ils disent. Nous espérions que ce serait lui, mais ils parlaient de Jésus. C'était Jésus qui marchait avec eux, ils n'avaient pas reconnu. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces événements se sont produits. Luc 24. Trois jours après la mort de Jésus, ils étaient toujours choqués. Et on peut facilement imaginer que tous les autres disciples était dans le même abattement. Cela a dû être terrible. En effet, tout ce que Jésus leur avait dit, toute l'espérance qu'ils avaient placée en lui. En le voyant guérir les malades, ressusciter les morts, tous les enseignements sur le royaume de Dieu, bien tout cela s'écroulait, tout cela partait en fumée, parce que Jésus était mort et enterré, victime d'un procès injuste, initié par les chefs religieux et exécuté par le pouvoir politique en place. Nous le savons tous, plus on place haut ses espoirs, plus la chute est terrible lorsque l'espoir est déçu. C'est la même désillusion qui devait occuper l'esprit des trois femmes mentionnées dans notre texte, donc Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé. Et pourtant, contrairement aux disciples, elles trouvent encore la force d'agir. À cause du sabbat, elles n'avaient pas pu embaumer le corps de Jésus. Alors le dimanche, de grand matin, elles reviennent à la tombe pour ce rituel. C'est tout ce qui leur reste à faire. Quoi ? Enterrer un mort. Mais au moment où elles arrivent devant la tombe, en se demandant comment elles vont pouvoir rouler l'énorme pierre qui ferme l'entrée, je ne sais pas si vous avez déjà vu une tombe en Israël, c'est comme une espèce de grotte, et vous avez des pierres qui font, je ne sais pas, 2,50 m de diamètre. Oui, de diamètre, mais on les roule. Quand le mort est dans la tombe, on les roule pour fermer la tombe. Voilà, forcément, elles se demandaient vraiment, puisqu'elles n'avaient pas du tout conscience que Jésus était ressuscité, elles se demandaient comment elles vont faire. Alors, c'est des tombes, c'est des pierres qui pèsent des centaines et des centaines de kilos. Elles découvrent donc que la tombe est ouverte. Elles ont le courage d'y entrer. Et là, leur vie va être bousculée parce qu'un mystérieux jeune homme en robe blanche leur annonce une chose incroyable. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié ? Il est ressuscité. Il n'est pas ici. C'est déjà bouleversant d'entendre dire que celui qu'elles avaient vu mort, il est vivant. Mais ce qui va changer leur vie, c'est ce que l'ange ajoute. Allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles sont terriblement effrayées. Elles s'enfuient en courant, sans obéir tout de suite à la consigne que l'ange leur avait donnée. Mais elles le feront plus tard. La résurrection de Jésus est déjà en soi un événement incroyable. Mais elle a en plus des conséquences extraordinaires. Elle va permettre aux disciples et à ces femmes de revoir celui qu'ils aimaient. Car Jésus les précède en Galilée. Remarquez ce que dit l'ange. Il vous précède en Galilée. Il ne dit pas il les précède, c'est-à-dire les disciples. Dans ce vous, il y a les disciples, bien sûr, mais il y a aussi ces trois femmes. Dans ce vous, il y a aussi tous ceux qui aiment Christ. Il y a vous et moi. C'est une histoire qui nous concerne tous aujourd'hui encore. C'est cela la bonne nouvelle qui change tout. Cet ange ne leur dit pas que la rencontre avec le ressuscité est pour plus tard, après leur mort, dans le royaume de Dieu. Non ! C'est maintenant, sur cette terre, dans leur vie présente. Alors, on peut imaginer que tout ce qui s'était écroulé dans leur cœur, dans leurs pensées, dans leurs espoirs, tout cela est en train de reprendre forme. Un peu comme ces images de dynamitage d'immeubles que la télévision nous montre parfois. Lorsqu'on repasse le film à l'envers, Ce qui n'était plus qu'un amas de poussière et de décombres se reconstruit soudain et le bâtiment reprend l'aspect qu'il avait avant la destruction. Vous en avez bien vu quand même. Oui ? D'accord. Il n'y a pas que moi qui ai vu ça. Alors, tout va-t-il pouvoir recommencer pour les disciples et pour ces femmes après la résurrection ? Oui. Comme avant ? Non. Pas comme avant. Bien mieux qu'avant. Pourquoi ? Parce que Jésus est ressuscité. Qu'est-ce que ça veut dire, Jésus est ressuscité ? Ça veut dire qu'il est vivant pour l'éternité. Bien sûr, ces trois femmes et les disciples ne peuvent pas encore comprendre vraiment ce que signifie la résurrection. Pour le comprendre, il faudra qu'ils soient témoins de l'ascension de Jésus et de l'effusion de l'Esprit le jour de la Pentecôte. La résurrection de Jésus n'a rien à voir avec la résurrection de Lazare en Jean 11. Elle n'a rien à voir avec celle de la fille de Jaïrus en Marc 5. Lazare est mort après avoir ressuscité. La fille de Jaïrus aussi, elle est morte. Ces deux résurrections dont je viens de parler et toutes les autres, c'était quoi ? C'était des signes que le royaume de Dieu s'était approché dans la personne de Jésus. Des signes au même titre que les guérisons diverses opérées par Jésus ou la multiplication des pains. Si notre foi s'arrête à ces actes spectaculaires, il nous manque encore de comprendre l'essentiel. C'est bien ce que Jésus a dit aux foules qui le cherchent partout après qu'il ait multiplié les pains et qu'il les ait nourris. Qu'est-ce qu'il dit Jésus ? Vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Jean 6. Ces gens sont loin de comprendre ce que Jésus voulait leur faire comprendre. Ils ne voient que le miracle des pains multipliés, mais ils ne comprennent pas encore le sens de ce signe. Alors Jésus ajoute tout de suite, « Travaillez ». Non en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de Dieu vous donnera. Jean 6. Qu'est-il essentiel de comprendre, au-delà des signes spectaculaires ? Il faut comprendre que dans la nuit de Pâques, Dieu a arraché Jésus à la mort. Cette mort qui n'avait aucun droit sur lui. Il a ainsi prouvé que la personne de Jésus tout entière est la vie. J'ai mis des majuscules au mot « vie ». N'est-ce pas ce que Jésus avait dit à ses disciples ? « Je suis le chemin, la vérité et la vie » Jean 14. Et ne dit-il pas à Marc, avant de ressusciter son frère Lazare, « Moi, je suis la résurrection et la vie. » Avoir foi au Christ, c'est beaucoup plus que croire en lui. C'est recevoir sa vie, comme le dit 1 Jean 5. Je cite, « Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. » Alors, On a lu dans le texte que l'ange a dit aux femmes qui sont entrées dans le tombeau, il, Jésus donc, il vous précède en Galilée. Il y a deux mots importants dans cette affirmation. Il y a le verbe précéder et il y a le lieu, la Galilée. Précéder. Vous savez tout ce que cela veut dire? Cela veut dire marcher devant. Marcher devant. L'ange dit à ces trois femmes, et donc à nous, celui qui est vivant pour l'éternité, celui qui est la vie, celui qui donne la vie, marche devant nous, pour peu que nous venions au rendez-vous qu'il nous a fixé, bien sûr. Permettez-moi d'insister sur l'importance de ce verbe précéder. Jésus ne nous attend pas, il ne nous attend pas en Galilée. Il nous précède, c'est-à-dire il marche devant nous. Concrètement, cela veut dire que la rencontre que le Christ ressuscité propose aux croyants n'est pas une vie statique, mais une marche permanente, à sa suite. Jésus n'a jamais demandé à ses disciples de l'accompagner, non. Il leur a toujours demandé de le suivre. Je cite, « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Jean 8. « Suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'hommes. » Matthieu 4. « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. » Jean 12. Sommes-nous conscients des implications extraordinaires de cette affirmation? Il vous précède en Galilée. Sommes-nous conscients de la force qu'elle peut nous donner si nous la prenons au sérieux pour nous conduire dans notre vie de tous les jours, pour nous soutenir dans les épreuves, pour nous apprendre à pardonner, pour nous guider dans nos choix. Jésus nous précède. C'est lui le chemin. Quand nous avons besoin d'être encouragés, quand nous avons besoin d'être relevés, d'être consolés, d'être guéris, Jésus ne se fait pas attendre, il ne se fait pas prier, excusez-moi. Non! Il nous précède. Il marche devant nous. Cela veut dire qu'il est déjà là lorsque nous désirons le rencontrer. Il connaît notre situation. Il connaît nos besoins. Il connaît notre cœur. Il connaît notre personnalité. Il nous ouvre toutes les portes et prépare les chemins où il veut nous conduire. Le psalmiste avait déjà exprimé cette merveilleuse certitude qui ne peut que renforcer la confiance que nous pouvons placer en Dieu. Je cite, « Où irai-je ? Loin de ton esprit. Et où fuirai-je ? Loin de ta face. » Et la réponse du psalmiste, elle est là. Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille demeurer au-delà de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Il est là. Psaume 139. Frères et sœurs, prenons conscience que ces paroles qui qui ont été inspirés par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas de la poésie, c'est la vérité. Le texte nous dit que Jésus précède ses disciples, où ça ? En Galilée. Jésus n'a pas choisi cette région en jouant à pile ou face. En effet, c'est là qu'il a commencé son ministère. C'est là qu'il a accompli ses premières guérisons, qui étaient autant de signes forts que le royaume de Dieu s'était approché, comme il l'a dit lui-même en Marc 1. C'est là aussi qu'il a choisi ses 12 disciples pour les former à la mission qu'il leur confie. C'est comme si Jésus voulait dire aux femmes et aux disciples, « Je vous donne rendez-vous là où tout a commencé. » Et je vous appelle à un nouveau commencement. Je vais vous quitter physiquement, mais je serai toujours avec vous par l'Esprit Saint que je vais vous envoyer pour que vous puissiez continuer à quoi faire ? À me suivre. Alors, frères et sœurs, qu'est-ce que la Galilée représente pour nous aujourd'hui ? Dans l'histoire d'un homme ou d'une femme, il y a au moins deux commencements. Le premier, c'est le jour de notre naissance. Tout le monde passe par ce commencement. Le second, c'est le jour de notre rencontre avec Christ ressuscité. C'est-à-dire le jour où nous nous rendons au rendez-vous qu'il nous a fixé en Galilée. Beaucoup d'hommes entendent parler de Jésus dans leur enfance, à travers l'école biblique et le catéchisme. Beaucoup ont entendu dire qu'il est ressuscité le matin de Pâques. Mais concrètement, qu'est-ce que cela a changé dans leur vie ? Pour que la vie des hommes change vraiment, il faut qu'ils rencontrent le Christ ressuscité et marchent à sa suite. Il faut un recommencement. Il faut une conversion. Il faut une nouvelle naissance. Et c'est cela, notre Galilée. C'est dans ce recommencement, dans cette rencontre que le Christ va pouvoir, quoi ? Insuffler en nous sa vie. Dans chaque domaine de notre vie, notre famille, l'Église, nos rencontres, notre travail, nos loisirs, notre couple, etc. Alors, nous expérimenterons que Christ marche de devant nous, dans nos souffrances et dans nos maladies. Il marche devant nous dans nos doutes, dans nos faiblesses, dans nos péchés, sachant que c'est par sa mort et sa résurrection que nous sommes pardonnés et que nous recevons sa vie. Il marche devant nous dans nos joies, nos espérances, nos aspirations, nos dons et bien d'autres choses encore. Bref, dans tout ce qui compose notre vie. C'est dans tous ces domaines que Jésus nous appelle à le suivre, pour qu'il y mette sa vie. La vie chrétienne ne devrait jamais être cloisonnée avec des domaines où nous acceptons que Dieu règne et d'autres où nous préférons gérer nous-mêmes les choses. La vie chrétienne englobe la totalité de notre vie et de notre être. Et Christ nous appelle à le rencontrer dans cette totalité, car il veut y insuffler sa vie. Jésus appelle chaque homme, chaque femme, chaque enfant à se rendre en Galilée pour le rencontrer. Si vous ne vous êtes pas encore mis en marche, pourquoi ne pas le faire maintenant? Si vous vous êtes arrêté en chemin, pourquoi ne pas décider de repartir maintenant? Le Seigneur a pour nous tous le même amour. Il ne nous juge pas. Il ne nous menace pas. Il ne nous condamne pas. Il nous appelle sans se lasser parce qu'il nous aime et parce qu'il veut nous donner quoi? Sa vie. Tu connais le cœur de chacun, Seigneur, ici présent? Moi, je ne connais pas. Mais toi, tu connais. Tu connais les doutes, les cheminements. Tu connais les obstacles. Alors, Seigneur, parle fort, 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 par ton Saint-Esprit, pour que chacun ici ait soif. Une soif, comme lorsqu'on a marché dans le désert sans boire une goutte d'eau. Une soif de recevoir ta vie, Seigneur. De recevoir ta vie.